France Inter.
Aujourd'hui, saumon d'élevage. Faut-il encore en manger ? Raconté par
Esther Dufort, cofondatrice et co-directrice de l'ONG Systémique.
Et Maxime Carcel, journaliste.
France Inter, La Terre au carré, Mathieu Vidard.
Imaginez une caisse de saumon fraîchement arrivé d'un fjord norvégien. À l'extérieur, tout semble impeccable, l'emballage est propre, les étiquettes affichent qualité supérieure et rien ne laisse deviner ce qui se cache à l'intérieur. Pourtant, lorsque les employés d'une usine européenne soulèvent le couvercle, la scène change brusquement. Les poissons sont marqués de plaies, la peau lacérée, parfois infectée. Ces images, qui ont été filmées par la chaîne publique norvégienne NRK, ont révélé un scandale qui secoue aujourd'hui l'une des industries les plus puissantes du pays, l'élevage intensif de saumon. Une filière qui rapporte plus de 10 milliards d'euros par an au royaume scandinave, deuxième source de revenus après le pétrole et le gaz, un symbole national et pourtant un système qui se fissure. Le reportage montre des chargements illégaux, des saumons blessés, normalement interdits d'exportation, expédiés pourtant en Europe en contournant les règles sanitaires. Des employés témoignent, il y a 10 ans, un poisson sur 1000 présentait des lésions cutanées. Aujourd'hui, on en trouve dans presque tous les arrivages. Les contrôles sont insuffisants, les sanctions rares et l'autorité norvégienne de sécurité alimentaire juge ces poissons impropres à la consommation. Derrière ces manquements se cache une réalité plus large. En 2024, 58 millions de saumons d'élevage sont morts dans les fermes norvégiennes, victimes de stress, d'infections ou des traitements contre les poux de mer, ces parasites qui rongent leur peau et affaiblissent leur système immunitaire. Et lorsque les poissons tentent d'échapper à ces conditions, comme les 27 000 saumons enfouis lors d'une tempête en février 2025, eh bien, ils menacent les populations sauvages déjà au bord de l'extinction. Cette industrie n'a plus grand-chose à voir avec l'image romantique des fjords norvégiens. Elle est devenue l'un des secteurs les plus concentrés du monde. 10 multinationales contrôlent la moitié du marché mondial. Et à mesure que la demande explose, la production mondiale a triplé en 20 ans. Les conséquences écologiques s'alourdissent. Mortalité élevée, maladies, pollution organique, risque de pollution génétique et jusqu'à 10 kg de CO2 émis pour produire 1 kg de saumon. En France, nous sommes parmi les plus grands consommateurs au monde et 99% du saumon que nous mangeons est importé presque exclusivement de ces élevages. Alors avant de poser une tranche de saumon dans une assiette, mieux vaut se rappeler d'où elle vient. Et c'est cette histoire que nous allons vous raconter.
Les fermes, comme celle devant laquelle on passe, existent déjà depuis 50 ans. On est toujours confronté aux mêmes problèmes environnementaux. Le pou de mer, les poissons qui s'échappent et la pollution. Et la situation ne cesse de se dégrader. C'est scandaleux qu'une seule filière détruise à ce point la nature.
Extrait d'un documentaire d'Arte, La crise du saumon en Norvège, c'était cette année. Esther Dufort et Maxime Carcel, bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Bienvenue Maxime Carcel, vous publiez aux éditions du Rocher un poison nommé saumon, enquête sur une industrie dévastatrice dans lequel vous dévoilez donc la face cachée des élevages intensifs de saumon. Vous avez donc enquêté sur le poisson préféré des Français qui, malgré donc des révélations depuis plusieurs années sur sa réalité, reste un véritable intouchable de nos assiettes.
Oui, parce que vous le disiez, nous sommes les premiers consommateurs, le pays le plus consommateur en Europe et aussi dans le monde, on fait partie du top 5. On en avait discuté, on avait vu des reportages à la télé, à la radio il y a quelques années, et puis on a cette tendance à croire que quand on voit des reportages, l'affaire est réglée derrière, la prise de conscience est faite, et que le sort des saumons était beaucoup, enfin en tout cas que ça n'existait plus, et puis que les fermes à saumons avaient été réduites. Or, ce n'est pas du tout le cas. En France, étant les premiers mangeurs, il n'y avait jusqu'à ce jour pas de livre qui reprenait à zéro toutes les données, tout l'historique du saumon et de sa production en élevage. Donc il était temps de le faire pour que les gens, les citoyens, puissent avoir en main les données, au-delà du fait que des données open source de Systemic, d'avoir un document qui leur donnait les chiffres d'information.
Esther Dufort, votre ONG justement Systemic avait publié il y a un an avec Data for Good une enquête qui mettait également en lumière les impacts des élevages de saumon dans le monde. Ça veut dire donc qu'on sait beaucoup de choses sur cette industrie depuis maintenant assez longtemps sans que effectivement rien ne change.
Et oui, quand on constate, c'est que effectivement, côté science, on sait tout ce qui se passe, on sait combien d'antibiotiques sont utilisés. On est conscient des microplastiques, on peut mesurer les microplastiques que l'on consomme quand on consomme du poisson, du saumon précisément. On est capable de chiffrer l'impact de l'industrie du saumon sur les populations d'Afrique de l'Ouest, c'est-à-dire combien de petits poissons sont pêchés. Donc on a énormément de data, ce qu'on a pu mettre en lumière avec Pink Bombs. Mais malheureusement, en face, il faut imaginer qu'on a des médias et du marketing très très puissant de la part de la Norvège pour nous vendre un saumon soi-disant qui serait sauvage, pêché dans un fjord pur en Norvège. Et ça, ça marche beaucoup dans l'esprit des gens. C'est plus rassurant de se dire ça, finalement.
Voilà, le saumon qui est resté pendant très longtemps un méga produit de luxe. Hein. Il est devenu plus accessible, en tout cas, ces dernières années. Maxime Carcel, votre livre commence par rappeler ce qu'était le saumon sauvage avant, précisément, de devenir ce produit industriel. C'est important de revenir à cette biologie originelle pour comprendre l'histoire.
Oui, parce que le saumon est un poisson complet, un produit, une magie de la nature qui est anadrome, amphibiotique, hippopotamotoque, ça veut dire dans
oui,
les ordres.
Oui, ça veut dire quoi?
que c'est un poisson qui va vivre en eau douce et en eau de mer et qui va remonter les courants et qui va se reproduire dans l'eau douce. Et ce poisson, en Europe et dans l'hémisphère nord, aux États-Unis et au Canada, ont été présents par milliers, par dizaines de milliers, à l'état sauvage. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. J'ai en tête, par exemple, des tribus amérindiens qui avaient sur leur totem une tête de saumon, qui ne vivaient que par le saumon, ne mangeaient que le saumon. Aujourd'hui, on est loin, c'est loin d'être le cas. Le saumon sauvage a quasiment disparu. Et la faute est principalement due à aux fermes de saumon d'élevage.
Et pourquoi? Quel est le lien, justement?
Le lien, il est assez, assez simple. C'est-à-dire que quand vous mettez des fermes de saumon sauvage avec une promiscuité assez folle dans ces énormes nasses de 200 000 saumons, 300 000, ça peut aller jusqu'à 1 million. On l'a vu encore cette année, des tempêtes qui peuvent casser ces fermes. Il va y avoir une fuite massive des saumons d'élevage. Et si les saumons sont matures sexuellement, il va y avoir un risque de croisement entre ces saumons d'élevage et ces saumons sauvages. On appelle ça une introgression génétique. Et il va y avoir la lignée des saumons qui se reproduisent qui va s'éteindre parce qu'ils vont donner naissance à des saumons qui ne sont pas viables.
Et ça, Dufort, il faut rappeler quand même que les saumons sont des super migrateurs qui sont capables de parcourir des milliers de kilomètres et que là, tout d'un coup, dans ces élevages, on les parque dans des endroits où la promiscuité est absolument épouvantable pour ces animaux.
Oui, il faut imaginer que donc à la base, les saumons sont capables de parcourir 3000 à 10 000 kilomètres. Et donc là, on les réduit à tourner en rond pendant 2 ans. On accélère aussi leur processus de croissance en jouant avec la lumière. Voilà, il y a plein de choses. Et donc maintenant, l'industrie du saumon est tellement dans une perspective très capitalistique, en hypercroissance, que pour, par exemple, contrer la problématique des échappées de saumon, l'idée maintenant, c'est de se dire, on va les faire sur Terre. Donc tout le cycle de saumon pourrait passer sur Terre. Et là, à nouveau, il y a un mythe, et je le dis tout de suite, il y a un mythe qui s'est effondré il y a un an. Maintenant, même les élevages sur Terre, en fait, sont loin d'être infaillibles. Il y a eu des saumons qui se sont échappés d'un élevage sur Terre. Tout simplement parce qu'il y a une vanne qui reste ouverte. Donc en fait, à partir du moment où il y a de la technique, de l'humain qui doit gérer, tout est possible. Et c'est une industrie qui fuit encore ces problématiques, qui est dans un déni de, finalement, non, elle doit vraiment réduire et à un moment disparaître cette industrie. Elle est destructrice pour tout le monde, pour les humains, la planète, les animaux.
On va écouter l'extrait d'une archive de 1971 de l'ORTF qui nous parle du saumon en Bretagne.
Peut-on dire qu'il existe encore beaucoup de saumon à l'heure actuelle en Bretagne?
Non, malheureusement, très peu. Très très peu. On doit arriver à 5 ou 6 000 saumons maintenant. C'est-à-dire à peu près le 5 ou 10% de ce qui était capturé au début du siècle. D'abord, au siècle dernier, on a pêchés d'une manière abusive. Et puis les inscrits maritimes qui ont fait de vrais ravages par la pêche au filet dans les estuaires. Et puis il y a les barrages, souvent construits trop et infranchissables. Et puis enfin, phénomène qui tue des centaines de saumons maintenant chaque année, la pollution.
Voilà, et là c'est en 1971, donc il y a fort longtemps, et Maxime Carcel, on observe en fait ce déclin spectaculaire des populations de saumon absolument partout aujourd'hui.
Oui, partout, à tel point qu'en France, il y a les préfectures qui prennent des décisions, des arrêtés pour interdire la pêche au saumon. Faut dire que le saumon, l'être humain a vécu avec le saumon depuis des dizaines de milliers d'années. On a retrouvé des traces des peintures rupestres de saumon datant d'il y a 40 000 ans dans les grottes. C'est un plat qui a été partagé pendant des siècles. Aujourd'hui, c'est un poisson particulier parce qu'il n'existe plus à l'état sauvage, comme on le disait. Et puis, on est en train d'en faire un produit marketing, un pur produit de consommation. Donc, je ne me souviens plus de votre question au départ, mais je suis en train de...
Sur la disparition, justement.
Oui, voilà, tout à fait.
Et l'effondrement des populations qu'on observe absolument partout. Esther Dufort, pourquoi justement la demande continue autant, malgré toutes ces alertes-là qu'on vient d'évoquer?
Il y a une méconnaissance de la part des consommateurs. Déjà, la majorité des consommateurs ne savent pas qu'avant, il y avait des saumons en France. À part voilà, les personnes qui vivent autour de l'Adour, dans le sud-ouest ou proche des rivières, où les anciens leur disent « oui, avant, on avait plein de saumons ». Personne n'est vraiment au courant que voilà, il y a beaucoup de plans de repeuplement qui sont faits, mais qui vont s'arrêter parce que ça échoue, parce qu'en fait, on n'arrive pas à avoir de saumons qui remontent les rivières pour toutes les raisons évoquées qui sont... Toujours les mêmes, ça n'a pas changé.
Tard, ouais.
Ça s'est même plutôt du coup aggravé. Et donc actuellement, on n'a plus de saumons qui arrivent à remonter les rivières. Dans l'Adour, c'est très rare dans le Gave de Pau qu'on ait des saumons qui arrivent à arriver jusqu'ici. C'est très difficile pour eux. Et donc globalement, le consommateur n'est pas conscient qu'avant on avait des saumons chez nous. Imagine que ce saumon qu'il consomme est sauvage. Il y a encore des producteurs norvégiens qui hésitent à mettre un label aquaculture durable, parce que sinon ça voudrait dire qu'en fait c'est de l'aquaculture et de l'élevage. Donc on en est encore sur, il y a beaucoup de désinformation. Et puis finalement c'est un produit qui est rose, qui a été très bien marketé, il y a peu d'arrêtes, donc il y a un gros succès. Mais aussi parce que les Norvégiens ont vraiment créé de toutes pièces cette demande. Ils se sont dit, ok, qui consomme beaucoup de poissons? Les Japonais, les sushis. Et puis après ça a été une histoire de percer des marchés. Et maintenant vous pouvez acheter des sushis au Leclerc si vous voulez. Enfin voilà, on peut acheter des sushis en supermarché un peu partout. Ça s'est popularisé dans les bagels, etc. Et la couleur, le goût, c'est travaillé.
Et il y a une association aussi avec la santé qui a très bien réussi.
Énormément. Donc ça a été un message clé qui a été diffusé dès les années fin 90-2000 en disant, voilà, manger du saumon, ça vous apporte des oméga 3. Et cette idée-là, il faut vraiment la combattre et revoir, en fait, changer notre vision. Parce que finalement, dans le saumon, maintenant, l'alimentation du saumon, elle a été très végétalisée. Il y a vraiment plus grand chance en termes d'oméga 3. Il y a plus d'effets nocifs à manger du saumon parce qu'il y a des restes de PCB, d'épiphase, etc. Donc, il y a beaucoup plus de risques à consommer du saumon que des bénéfices. Et les oméga 3, on peut les avoir ailleurs. Donc ça, c'est un vrai sujet, mais on pourra en reparler.
Mais qui est bien rentré en tout cas dans la tête de toutes et tous. Est-ce qu'on peut encore sauver le saumon sauvage aujourd'hui, Maxime Carcel?
Moi, je pense que oui, on pourrait sauver le saumon sauvage à condition de prendre conscience que le saumon sauvage est en grande difficulté. Il faudrait prendre le temps de reconstituer les stocks des saumons sauvages. Donc, il faudrait mettre un frein à la consommation délirante de saumon d'élevage.
Et puis, il faudrait réduire toutes les pressions anthropiques dont on parlait encore tout à l'heure.
Oui, tout à fait. Il faut savoir qu'à une époque, le Rhin, la Seine, faisait remonter des milliers de saumons. Encore. C'est difficile d'imaginer, mais c'était comme ça que ça se passait.
La Terre au carré. Mathieu Vidard sur France Inter.
On a enfilé nos combinaisons de plongée. On a sauté dans l'eau. Et on s'est approché furtivement d'une de ces fermes. Je savais que je verrais des tonnes de poissons. Mais je ne m'attendais pas à ce que ça soit aussi horrible. L'enclos était plein de poissons malades. Certains étaient infestés de champignons, d'autres étaient en forme de S. La plupart avaient des plaies aussi larges que ma main.
C'était comme aller dans une ferme et voir des vaches ensanglantées, couvertes de plaies, et qui arrivent à peine à respirer. Qui aurait envie de les manger ?
Il s'appelle Mikael Frodil, c'est un pêcheur suédois, membre de l'Association pour la conservation des saumons de l'Atlantique. Esther Dufort de l'ONG Systémique et le journaliste Maxime Carcel, vous êtes nos invités à l'occasion de la sortie de votre livre, Maxime Carcel, un poison nommé saumon. C'est une enquête sur une industrie dévastatrice, pour reprendre votre sous-titre, livre qui sort aux éditions du Rocher. Vous commencez cette enquête avec Mowi, c'est le leader mondial du saumon d'élevage. Qu'est-ce qu'il incarne exactement ce groupe ?
Il incarne une espèce de gargantua de la production du saumon d'élevage. Faut savoir que la Norvège, c'est le premier pays producteur de saumon au monde, et Mowi est le premier groupe au monde. Ce sont des Norvégiens. En 2023, les volumes de récolte, on parle de récolte, même si ce sont des animaux, c'est comme ça, en 2023, à peu près 475 000 tonnes de saumon, c'est un record historique, des records qui sont ensuite battus année après année, avec aujourd'hui à peu près un chiffre d'affaires de plus de 5,5 milliards d'euros. Et à la tête de ce grand groupe, on a un multimilliardaire qui s'appelle John Fredriksen, dont le journaliste Gunnar Stavrum avait fait une biographie en 2006, qui s'appelle Le Grand Loup, une biographie non autorisée de John Fredriksen. C'est quelqu'un qui n'a pas fait d'études et qui s'est intéressé très rapidement au transport de pétrole. Et il a profité à l'époque de la guerre Iran-Irak pour livrer du pétrole entre la Syrie et l'Iran, parce que plus personne ne voulait le faire. Donc lui, il a répondu à l'appel d'offres, il a dit « moi je peux le faire », sauf qu'il n'avait pas de bateau. Et son idée avait été de se dire « si je suis choisi, je vais louer des bateaux ». Donc c'est ce qu'il a fait. Parce qu'à l'époque, il faut savoir que c'était extrêmement dangereux, il y avait les obus qui tombaient. Mais lui, il s'est dit « c'est moi qui vais le faire ». Et donc il a mis des ouvriers philippins à bord. Et il a commencé à devenir riche à partir de cette opération-là. En 1985, il y a quand même eu une attaque qui a eu un de ses bateaux, il y a eu des morts. Mais peu importe, John Fredriksen a poursuivi son ascension. Et l'autre idée pour devenir riche, c'était de faire des économies. Et lui, il a décidé de faire des économies sur le fioul lourd. À la fin de chaque traversée, les navires nettoient les cuves. Vous avez toujours un espèce de on appelle ça du slop, c'est-à-dire un fioul lourd qui est impropre, qui doit être jeté. Et ils avaient décidé de le reprendre pour le mélanger avec du fioul qui allait être utilisé, ce qui est complètement interdit. Il s'était fait signaler à plus de 3000 reprises et donc il a écopé de plus de 100 jours de prison. Et au sortir de prison, il a dit « je suis un homme changé aujourd'hui, je suis quelqu'un de plus humble, donc je vais me calmer un petit peu ». Ce qui n'a pas été du tout comme ça que ça s'est produit, parce qu'en fait, à partir de 2006, on lui a soufflé à l'oreille qu'il y avait un marché à prendre, celui des saumons, parce qu'à l'époque, le Chili s'était mis au saumon, donc les prix mondiaux avaient un peu baissé, donc il y avait quelque chose à faire. Il a racheté à peu près toutes les grosses entreprises de saumon de l'époque. Aujourd'hui, il se frotte les mains, c'est devenu l'un des hommes, il fait partie des 100 personnes les plus riches du monde, d'après Forbes. Il a plus de 80 ans
et
tout va bien pour lui.
Esther Dufort, ce qui est intéressant dans cette histoire que vient de retracer Maxime Carcel, c'est qu'on voit bien à quel point l'industrie du saumon, elle est ancrée aussi dans cette histoire capitaliste liée au pétrole, à la finance, plus que finalement à la pêche traditionnelle.
Beaucoup plus. Et pour vous donner un ordre d'idée, la Norvège, en 2023, a décidé de passer une taxe sur les super-profits, donc sur les industries qui font des super-profits en Norvège. Cette taxe a concerné les industries pétrolières et l'industrie du saumon. Preuve en est qu'ils font énormément de profits. Et donc effectivement, quand on regarde par exemple le projet de ferme terrestre, donc de saumon, des fermes-usines là, de saumon terrestre en France qui essayent de se monter, notamment celle en Gironde, le projet porté par Pure Salmon. Pure Salmon, c'est pas du tout un producteur initialement de poissons, c'est pas des pêcheurs, ils ont rien à voir avec, on va dire, l'économie de la mer. Ce sont des investisseurs purement et simplement qui viennent de Abu Dhabi, de Singapour, et qui font des levées de fonds et qui estiment que c'est un super secteur dans lequel il faut investir.
C'est voilà. Des financiers
c'est
avant tout.
C'est de l'investissement voilà. Et des financiers avant tout.
Parce que l'industrie est hyper rentable en fait.
Parce que c'est rentable. C'est rentable aussi parce qu'il y a zéro contrainte. Les poissons arrivent, ils sont morts avant d'être abattus. Donc faut, répétons, morts avant d'être abattus. Et ça, c'est une vraie problématique. Hein. L'agence de protection des consommateurs en Norvège a demandé à ce que sur l'étiquetage, ça apparaisse pour les consommateurs, pour qu'ils puissent comprendre.
Donc ça dit quoi ?
Voilà, qu'est-ce que ça en dit. Et donc, ça montre qu'en fait, on peut faire des marges très facilement, alors que typiquement, quand même, on n'accepterait pas de manger des vaches qui étaient mortes. Enfin, ça voudrait dire qu'on prend des cadavres. Enfin, ça ne marcherait pas. Mais là, sur ces élevages-là, pour les poissons, ils sont plus petits, ils sont loin de nous, ils sont sous l'eau, on ne les voit pas. Donc, globalement, on fait un peu ce qu'on veut.
Donc, ça veut dire que les poissons que nous recevons en France, les saumons que nous consommons, ils correspondent exactement à ce que vous décrivez, là ?
Oui. Oui, ça a été une demande, c'est-à-dire que il y en a un, et donc il y a une opacité, on ne sait pas quel est le pourcentage de saumons qui sont morts avant d'être abattus, le nombre de saumons qui avaient des maladies qui n'auraient pas dû être consommées et qui arrivent dans des états, voilà, ils ont énormément souffert, mais on les prend et on rentabilise au maximum.
Votre ONG, donc Systémique, Esther Dufort, s'est intéressée au cas du Sénégal. Pourquoi exactement ? Qu'est-ce qui se passe en Afrique de l'Ouest en lien avec cette affaire ?
Alors, Systémique, déjà, c'est un petit jeu de mots avec pour la mer en anglais. Et on a une approche qui est systémique. C'est-à-dire que nous, on regarde, OK, on a un problème. Notre système alimentaire a des impacts très importants sur l'océan. Il faut bien avoir en tête qu'actuellement, l'océan est en danger, l'océan est malade et se vide de ses poissons, et que la moitié du problème, et cette partie est croissante, c'est l'aquaculture intensive, donc la pisciculture intensive, c'est-à-dire les élevages de poissons carnivores intensifs. Donc nous, ce qu'on consomme majoritairement, du saumon, de la truite, du bar dorade. Donc pour nourrir ces poissons, qu'est-ce qu'on fait ? On pêche des petits poissons, des sardines, des sardinelles, des maquereaux, des anchois. On les broie en farine de poisson, on les transforme en croquettes, on met ça avec du soja pour la partie végétale, ça fait des croquettes, tac, on le donne au saumon. Problématique, c'est que ces petits poissons, initialement, ils étaient bien mangés par quelqu'un. Et ils étaient mangés notamment sur les côtes d'Afrique de l'Ouest par les populations locales, ça fait partie quand même de leur alimentation de base. Et actuellement, on vient vraiment créer des cercles de paupérisation, c'est-à-dire qu'on enlève tous les emplois locaux des femmes transformatrices de poissons, des pêcheurs qui n'ont plus de poissons à pêcher parce qu'en fait, ce sont nos gros bateaux qui pêchent ces poissons pour les mettre directement dans les usines de farine de poissons qui sont sur les côtes. Donc, plus d'emploi, plus d'accès à l'alimentation de base. Donc, derrière, des problématiques pour les femmes, pour les enfants, l'accès aux droits, à l'école, la santé, etc. Et donc, des gens qui migrent aussi. Donc, derrière, pour donner un chiffre, un ordre de grandeur, on estime que la Norvège, quand elle pêche tous ses petits poissons sur un an, le volume qu'elle pêche, ça permettrait de nourrir 2,5 millions à 4 millions de personnes. 2,5 millions, c'est la population de la Gambie. 4 millions, c'est le Gabon. Ça veut dire qu'en fait, on enlève vraiment le pain à la bouche des populations d'Afrique de l'Ouest, réellement. C'est une vraie problématique et on déstructure finalement les sociétés en Afrique de l'Ouest.
Maxime Carcel, quels impacts écologiques ressortent comme les plus graves à l'issue de votre enquête justement sur le saumon ? Et Lucie Sarfati est déjà en train de m'apporter des questions et je peux vous dire qu'elles sont ultra, ultra nombreuses. Donc on y consacrera du temps dans la troisième partie. Donc les impacts écologiques, oui Maxime ?
Elles sont nombreuses. Bon, on parlait du cas de l'Afrique noire, mais on pourrait aussi parler du cas du Pérou avec la ville de Chimbote qui avant se faisait appeler la perle du Pacifique, qui était une ville portuaire extraordinaire. Aujourd'hui, il y a 42 usines de transformation d'anchois. Parce qu'en fait, le problème de Chimbote, c'est qu'au large, vous avez des populations d'anchois qui sont à foison. Et cette particularité avait fait justement de Chimbote une ville très riche. Aujourd'hui, ce n'est plus du tout le cas. Et ces usines de transformation, donc qui transforment les anchois en farine, notamment pour les productions de saumon en Tasmanie, en Australie. Et vous avez donc une odeur puante dans la ville et puis sur la côte. Et puis vous avez aussi une boue qui va donc se répartir sur 54 millions de mètres cubes au large de la ville et qui va atrophier et qui va annihiler toute vie. Avec, évidemment, il y avait le Guardian qui avait fait un reportage là-dessus il y a quelques années, qui avait été voir un médecin et qui, le médecin disait, il y a un taux de cancer parmi les enfants qui est alarmant ici. Donc, on a des cas de...
Et il y a eu une association directe avec...
Le problème, c'est qu'il faudrait avoir là-bas au Pérou du temps et de l'argent pour faire les études nécessaires. La farine d'anchois fait rentrer énormément d'argent. Donc bon, pour le moment, il s'occupe des anchois et pas d'autre chose.
Et ça, Dufort, au-delà du cas du Pérou, qu'est-ce qu'on peut dire des impacts écologiques de l'élevage de saumon?
Pour bien avoir en tête, les impacts y viennent. Donc, ils sont multiples. Donc, ça commence déjà par la production des aliments pour les saumons. Donc, on a du soja qui vient de la déforestation. La farine de poisson, donc, on pêche tous ces petits poissons. Quand on pêche ces poissons, qu'est-ce qui se passe? On est sur de la pêche avec des filets qui viennent ramasser des tortues, des dauphins, etc. Donc, on pêche pas que des petits poissons. C'est pas une pêche sélective, c'est une pêche qui est super destructrice. Et donc, ça, c'est une première très grosse problématique sur la faune marine qui se retrouve impactée. Puis après, une fois qu'on a les saumons qui sont dans ces élevages, ils ont, comme Maxime l'a dit, énormément de maladies et de difficultés. Donc, on utilise beaucoup de produits chimiques, beaucoup d'antibiotiques. Dernièrement, on a trouvé des stéroïdes pour stimuler la croissance alors que c'est interdit. Et donc tout ça, ça reste en fait, tous ces produits chimiques restent dans l'eau et impactent toute la faune marine autour. Donc c'est simple, quand vous plongez sous l'eau, il n'y a aucune faune marine en dessous des filets. Et tout ça, après bien sûr, il faut se dire, nous les humains on le mange, mine de rien. Donc ça veut dire qu'on ingère des microplastiques, on ingère des métaux lourds, on ingère des PFAS. Donc on a des impacts qui sont sur la santé humaine, des impacts qui sont éthiques, l'inéquité clairement. On n'a pas besoin de manger autant de saumon. Vraiment, on n'en a pas besoin, alors que les populations en Afrique de l'Ouest, elles ont besoin de pouvoir manger leurs sardines. Donc ça aussi, c'est un impact. Les impacts sur les écosystèmes marins qu'on détruit. Donc vraiment, c'est assez massif et il faut essayer de voir le problème dans son ensemble de manière macro.
Il y a eu récemment, je crois, des pollutions aux antibiotiques en Norvège d'ailleurs aussi,
oui,
à cause de l'utilisation intensive de ces médicaments.
Tout à fait. Et les fjords, en fait, c'est une vraie problématique, autant en Écosse qu'en Norvège, mais les fjords sont très pollués. Et pour l'instant, il n'y a pas de résolution, il n'y a pas de solution qui a été trouvée à cette problématique.
Alors, c'est ça, autour du saumon, l'un des gros problèmes aussi, c'est que la régulation, elle peine aussi à se faire entendre. Il n'y en a pas réellement, en fait.
Pour le moment, il y a eu des demandes des gouvernements. La Norvège, ils ont essayé de mettre des systèmes pour essayer de gérer les infestations de poux qui mangent vivants. Donc, c'est-à-dire que les saumons, c'est un animal qui se fait manger vivant par un poux de mer. C'est quand même assez effroyable. Et ce n'est pas résolu. Les taux de mortalité sont toujours très élevés. Les élevages de saumons, le taux de mortalité, il est de 16%. Un élevage de porcs ou de bovins, en France, on est à 4%. Donc, vous voyez, il y a un écart qui est quand même massif. Et malgré tout ce qui a été tenté, il n'y a pas de solution pour le moment.
France Inter. La Terre au carré.
Le projet, c'est un projet de ferme de saumon qui va produire 10 000 tonnes de saumon par an. C'est une ferme terrestre qui utilise donc ce procédé qui en fait prend de l'eau des nappes non phréatiques qui sont des nappes d'eau saumâtre. Cette eau est filtrée et elle est recyclée à 99%, pas traitée avec des produits chimiques et une eau d'une qualité qui n'a aucun impact sur l'environnement.
Il s'appelle Paul Miliotis, c'était en 2023, responsable du projet Pure Salmon, cette ferme aquacole terrestre de Verdon-sur-Mer. C'est près de l'estuaire de la Gironde. Et fin octobre, l'administration déclarait le dossier recevable sur la forme avant de passer à l'enquête publique. On parle saumon aujourd'hui d'élevage avec vous, Maxime Carcel, qui est journaliste avec ce livre Un poison nommé saumon aux éditions du Rocher. Et vous, Esther Dufort de l'ONG Systémique, est-ce que vous voulez rebondir? Parce qu'il y a déjà beaucoup de questions au sujet de cette ferme piscicole, donc en Gironde.
Rapidement, effectivement, le projet, on a réussi quand même à le bloquer pendant 3 ans. On a été attaqué en justice pour diffamation, je tiens à le rappeler. On a gagné, ils ont perdu à 2 reprises. Et là, le projet, pour l'instant, apparemment, est jugé recevable. Nous, on attend de voir le dossier, parce qu'il y a énormément de points qui n'ont pas été levés sur comment est-ce qu'ils vont réussir réellement à s'approvisionner en eau sans impacter les nappes d'eau phréatique à l'échelle locale. Quelles sont la qualité des rejets ? Énormément de questions qui ne sont pas résolues, donc on va voir ce qui arrive. La mobilisation continue sur le terrain. Samedi prochain, il y a une mobilisation. Et puis nous, derrière, on continue le travail à l'échelle nationale. On porte une demande de moratoire pour stopper l'implantation de ces élevages, un moratoire de 10 ans, pour qu'on ait le temps d'avoir en fait, nos super scientifiques qu'on a en France qui se réunissent et qui regardent quel est l'intérêt en fait, d'avoir ces fermes-usines. Est-ce que c'est compatible avec les accords de Paris, avec la stratégie d'aquaculture durable, etc.
Parce qu'il y a aussi beaucoup d'émissions de gaz à effet de serre dans l'élevage de saumon.
Parce qu'il faut savoir qu'une usine de saumon, c'est la consommation d'une ville de 40 000 habitants. Ça consomme énormément d'eau. Je ne vais pas vous sortir tous les chiffres parce que vous allez avoir le tournis, mais c'est massif. Et l'idée, c'est de faire 10 000 au début pour aller sur du 20 000 tonnes. Pour vous donner un peu une idée, la pisciculture en France, on produit 40 000 tonnes. Donc, eux, à eux tout seuls, ils voudraient produire 10 000 tonnes.
Et donc, l'enquête publique, ça va donner quoi, en fait ? Ça sert à quoi ? C'est demander l'avis des citoyennes et citoyens ?
Les citoyennes et les citoyens peuvent participer et c'est le moment où tout le monde peut donner son avis.
Et ça peut peser dans la balance ?
Ça pèse toujours dans la balance. C'est l'occasion, en fait, c'est vraiment un espace de temps démocratique où on peut poser nos questions et on peut, justement, partager notre avis. Donc, vraiment, suivez-nous pour avoir, pour voir comment participer de manière simple.
Voilà, pour toutes celles et ceux qui s'inquiètent de cette ferme aquacole de Verdon-sur-Mer, ferme donc terrestre, Maxime Carcel. Est-ce qu'on pourrait penser que ce sont des alternatives justement aux fermes piscicoles norvégiennes, par exemple, qui sont dans les fjords, d'un point de vue écologique ? Est-ce que vraiment là, on résout le problème ou pas ?
Avec les
avec les fermes terrestres.
Absolument pas. Non, non, au contraire, on ne fait qu'empirer la chose. Les pays du Golfe s'y mettent aussi beaucoup.
À Dubaï, par exemple.
Il faut savoir que ce sont des énormes hangars où il doit être rendu une température norvégienne. Donc, je vous laisse imaginer la quantité astronomique d'énergie qui doit être utilisée. Et puis, vous avez des pertes. Il y a déjà la littérature montre qu'il y a eu des pertes massives de saumon dans ce genre d'élevage parce qu'il y a un peu d'azote il y a de l'azote qui n'a pas été mis ou ce genre de choses. Et là, vous avez 200 000 poissons qui vont mourir d'un coup. Mmh. Ils sont toujours à l'état d'essai, mais ils y vont tête baissée parce qu'ils savent que ça va rapporter énormément. Donc non, c'est loin d'être la solution.
Allez, on passe aux questions des auditeurs et auditrices. Et on va écouter un premier message vocal d'Estelle qui vient de nous joindre sur l'application Radio France.
Quand j'étais enfant, j'ai 49 ans, c'était un poisson de luxe, le saumon, on le mangeait à Noël, au Nouvel An. Aujourd'hui, c'est l'un des poissons les moins chers sur les étals. Faut pas s'étonner si c'est un désastre écologique. Personnellement, c'est un boycott total.
Esther Dufort, c'est quoi le message finalement ? S'il y a beaucoup de questions sur les alternatives de la part de
Alors,
nos auditeurs.
Premièrement, nous, ce qu'on recommande, c'est de réduire la fréquence de consommation de saumon. Si vous pouvez, ça dépend. Où vous en êtes dans votre niveau d'addiction ? Est-ce que vous êtes team tous les mardis, c'est sushi, tous les samedis ? Voilà, faut voir là où vous en êtes. Réduisez après les portions, si vous avez l'habitude d'en mettre dans les pâtes, dans des plats préparés. Donc, réduire la fréquence, réduire la portion, végétaliser et après, aller vers d'autres poissons. Là, regardez le travail de pleine mer. C'est des associations qui font un très bon travail. Il y a une entreprise qui s'appelle Poiscaï aussi. Voilà, donc il y a d'autres choses qui existent, mais dans tous les cas, il faut avoir en tête qu'on doit diviser par 3 la consommation de poissons des Français. C'est énorme, et on va le faire de manière progressive, mais il ne faut pas être non plus trop lent, parce que l'océan n'attend pas. Donc, l'idée, c'est de repeupler l'océan en laissant les poissons et de dépoissonner notre alimentation. On décarbone notre société, on doit faire la même chose, on doit dépoissonner, vraiment réduire. Et on met le haro sur les poissons d'élevage. Donc, la truite... C'est pareil, beaucoup de personnes se posent la question.
Ouais, il y a beaucoup de questions aussi dans ce sens. Hein.
Voilà.
Est-ce que c'est mieux ou pas ? Alors, qu'est-ce que vous répondez ?
La truite, c'est la cousine du saumon. Donc, elle mange exactement comme le saumon. Son alimentation a les mêmes impacts que les saumons. En termes de polluants à l'intérieur des truites, ça va être la même chose. Donc, tous les poissons carnivores, barre, truite, dorade, et qui sont des poissons d'élevage, il faut vraiment éviter, mettre de côté, si on peut arrêter et passer sur autre chose, plutôt de la petite pêche artisanale, quand on peut végétaliser. Voilà, c'est plutôt vers ça qu'il faut tendre.
Ouais, Sébastien va être effondré puisqu'il nous dit dans son message « Je remplace de plus en plus le saumon que j'adore par la truite française et de Bretagne particulièrement. J'ai la faiblesse de croire que leur élevage est plus sain. » Maxime Garcelle, donc.
Ça veut dire que si la truite rencontre le même succès que le saumon, on va avoir les mêmes problèmes qu'avec le saumon actuellement d'ici quelques années.
Mmh. Ah. Mathieu demande quelles sont les alternatives. Vous me parliez hors antenne d'un saumon végétal, en fait, c'est ça?
Ouais, en fait, souvent. Alors, le réflexe du consommateur, ça va être de se dire, je vais acheter en bio. Finalement, dans le bio, il y a plus de traces de... En fait, il faut imaginer que le saumon, c'est un poisson carnivore. Donc, en fait, on a une accumulation au fil de la chaîne trophique. Les poissons bio, qui sont élevés en bio, ils mangent plus de petits poissons. Donc, en fait, il y a plus de contaminants dans ces poissons-là. Donc, c'est moins bon pour la santé. Ouais. Idem pour le label rouge. Quand on regarde ces types d'élevage, les incidents et les taux de mortalité sont similaires, voire parfois pires. Donc, c'est gage de rien du tout, ces labels-là.
Ouais.
Et ce qu'il faut regarder, c'est finalement la truite, ok, elle nous paraît locale à l'échelle-là quand elle est produite, mais son alimentation n'a rien de local. Son alimentation vient du Brésil, vient d'Afrique de l'Ouest, vient du Pérou, vient du Chili. Donc ça, c'est juste une idée qu'on se fait parce que c'est rassurant, on est d'accord. Mais c'est loin d'être le cas. Donc l'idée, après, c'est que parfois, il y a des similis qui existent. Nous, il y a le simili, on ne va pas faire...
Sans citer de marque.
Sans citer de marque.
Mais ça existe.
Mais pour du saumon fumé, on trouve que ça marche bien. Pour les gens qui sont très fans du goût, qui ont envie de le retrouver, et qui fait du bio, ça marche bien. Il y a des choses sur lesquelles on pourra remplacer, d'autres où clairement remplacer un pavé de saumon, ça va être plus difficile. Mm-hmm. Donc là, on vous invite à réduire à nouveau la fréquence, les portions et à aller manger d'autres choses.
Donc malheureusement, même la truite, même le label bio, même le label rouge, tout ça, ça ne fonctionne pas en fait. Hein.
Non. Et pour vous dire, c'est une vraie problématique pour l'Écosse. Hein. L'Écosse, c'est l'Irlande. L'Irlande, premier producteur en bio. L'Écosse, premier producteur du label rouge. C'est des vraies problématiques là-bas pour les populations locales. Les fjords, ils sont défoncés en termes de pollution chimique à l'intérieur des fjords. Il y a énormément de contestations.
Ouais.
Donc, ça ne résout pas du tout le souci.
Maxime Carcel.
En Écosse, on parle de l'Écosse. Il faut savoir que les Écossais sont en majorité contre la salmoniculture. En Norvège aussi, d'ailleurs. En Norvège, ce ne sont pas des gros mangeurs de poissons, de saumon. Le poisson là-bas, le saumon là-bas est très mal vu à cause justement de ces problèmes de pesticides.
Violette nous dit, soulignez aussi, s'il vous plaît, l'industrie alimentaire animale, surtout féline, qui vend et vante les mérites de l'huile de saumon, précisément pour ses supposés oméga 3 et leurs effets sur le pelage des chats.
Marketing, écoutez.
Il faut avoir, faut déconstruire un peu tout ça. Il faut savoir que les saumons, ils ont leurs oméga 3 parce qu'on produit des oméga 3. Les oméga 3 sont produits par des algues. Initialement, les poissons mangent ces petites algues, puis ils ont des oméga 3 et nous, on mange les poissons. Mmh. Les gens qui mangent des poissons. Ça ne marche plus. Donc souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on supplémente, comme tous les animaux d'élevage, les saumons sont supplémentés en oméga 3 pour en avoir un petit peu. Et donc, en fait, on pourrait faire de manière très différente, juste produire ces algues et les mettre dans les croquettes, effectivement, pour les chats et chiens plutôt que d'utiliser du saumon.
Et je termine avec le message d'Annick qui travaille pour l'association Eau et Rivière de Bretagne. Nous sommes très inquiets pour le saumon depuis plus de 60 ans maintenant et on veut créer une coalition pour le saumon. Est-ce qu'il vous semble possible de dialoguer avec les pêcheurs en estuaire qui, par leur capture accidentelle, condamnent les derniers reproducteurs qui arrivent dans nos rivières ?
Vaste sujet.
En nous, 20 secondes.
On essaye de dialoguer avec eux. Moi, dans le temps, j'ai eu mon oncle qui a pêché le saumon dans l'Adour. Donc, on connaît un peu le sujet de près. Et effectivement, c'est un sujet. Mais ils sont sensibles parce que d'eux-mêmes, déjà, dans l'Adour, ils ont décidé d'eux-mêmes d'arrêter de pêcher les saumons. Maintenant, il faut faire le travail à l'échelle nationale.
Merci en tout cas à tous les deux. Esther Dufort, je renvoie sur votre ONG donc Systémique. On met le nom de l'association en lien sur le site de la Terre au Carré. Et puis Maxime Carcel, ce livre que vous signez aux éditions du Rocher, ça s'appelle Un poison nommé saumon, enquête sur une industrie dévastatrice. Merci beaucoup d'être venu nous en parler aujourd'hui. On commence bien la semaine avec vous. Hein.